CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'écouter le mag du pays Midi-Quercy. Dans ce premier numéro de 2014, il va de soi que nous devons vous présenter des vœux. Personne n'est mieux placé que le président du syndicat mixte du pays pour formuler des souhaits et récapituler les actions menées dans l'année écoulée. Ce sera donc Jean Cambon, président du pays Midi-Quercy, qui va nous présenter ses vœux et annoncer les grands chantiers de 2014, notamment l'évaluation du programme LEADER, les 10 ans de l'inventaire du patrimoine, les plans climat-énergie et bien d'autres sujets. Dans la deuxième partie de ce mag, nous resterons en compagnie de Monsieur le maire, mais nous accueillerons également Valentine Bouet, co-directrice de la cuisine, qui va nous parler de l'ouverture du château de Nécropolis. Mais avant cela, des annonces. À Cossa de mardi 14 janvier, des comptes jeunes publics à la médiathèque de 11h à 11h30 avec Jean-Yves Pagès de l'association Les Thérèses. À Molière, les comptes jeunes publics sont à la médiathèque de Molière à 9h45 mardi 14 janvier. C'est ouvert gratuitement aux enfants accompagnés d'un parent avec le compteur Jean-Yves Pagès toujours. Ciné Pollen à Nègrepelisse à la médiathèque à 20h30 mardi 14 janvier. Projection présentée par l'association Pollen, le film « Tous cobayes » de Jean-Paul Jau. À la Guépi, mercredi 15 janvier à la Salle du Peuple, à 15h, projection Cap Monde, la Nouvelle-Calédonie. À Verfeil-sur-Seille, mercredi 15 janvier, animation pour enfants à la bibliothèque de 10h à 11h, autour de jeux anciens et jeux en bois, de 11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec l'association Fifi. Dans la salle des fêtes de Verfeil, à 14h30, mercredi 15 janvier, organisation d'atelier cuisine, animé par Hélène Bourry de l'association Sivam Semaille. À Sept-Fonds, jeudi 16 janvier, Coque des Rois organisé par le foyer des aînés l'après-midi dans la salle des fêtes. À Caussade, vendredi 17 janvier, loto du basket à 20h30 à l'espace Bonaïs. À Saint-Antonin-Nobleval, vendredi 17 janvier à la salle des Thermes, à 21h, spectacle jeune public, La Charmeuse d'Oiseau, présenté par la compagnie Sapa, CSM La Magicienne, spectacle de fin de résidence, 5 euros, tarif unique. Samedi 18 janvier à Albias, Rollers, sortie sport famille organisée par la communauté de communes Terrasse et Vallée de l'Aveyron, à la salle polyvalente de 10h à 11h30 à partir de 7 ans. Renseignements 05 63 30 90 90. À Caussade, samedi 18 janvier, loto du collège Saint-Antoine à 20h30 à l'espace Bonaïs. À Molière, samedi 18 janvier, randonnée gratuite organisée par les amis de la médiathèque de Molière sur le circuit de Gannic. Rendez-vous à 13h30 devant l'église de Molière. Samedi 18 janvier, au Florida à Sept-Fonds, la Luciole présente Amour et Concerto. Une pièce de théâtre mise en scène par Marie-France Ménac, c'est samedi à 21h. Et c'est organisé par l'association Pierre Nègre. À Saint-Étienne-de-Tulmont, samedi 18 janvier, théâtre également organisé par l'association Maison des Gâtilles à la salle des fêtes. Et enfin à Albias, dimanche 19 janvier, loto de la paroisse protestante à 14h30 à la salle Omnisport. Jean Cambon, président du syndicat mixte du pays Midi-Quercy.
Bon, mais écoutez, le pays Midi-Quercy arrive à une sorte de tournant ou de transition. Un certain nombre de ses politiques, de ses financements arrivent à terme. C'est le moment pour le pays Midi-Quercy, de faire un peu le bilan d'un certain nombre de ses actions, notamment sur le programme LEADER qui va se conclure. Nous avons utilisé largement surtout le pays Midi-Quercy et que nous allons évaluer, parce qu'une de nos souhaits, c'est que si nous menons des politiques, il faut pouvoir mesurer leur efficacité sur le terrain, à qui elles ont été utiles, à quoi elles ont servi, et est-ce que les services qu'on a voulu développer, l'innovation sociale et environnementale sur le pays Midi-Quercy, ont progressé dans la période. C'est à l'issue de ce programme, c'est à cette évaluation à laquelle nous procédons actuellement. Nous sommes aussi très impliqués sur le dossier du pays d'Art et Histoire. Nous avons un patrimoine dans le pays Midi-Quercy extrêmement riche, Saint-Antonin, Bruniquet, Moricou, Varin, enfin, vraiment un patrimoine qui sort de l'ordinaire et qui a été un peu géré au niveau communal. Non pas qu'il était mal géré, puisque souvent il a été protégé grâce à l'effort des communes, mais qui a besoin d'être mis en perspective et valorisé plus globalement. Le pays d'art et d'histoire va avoir le mérite de mettre en perspective ce patrimoine qui nous a été transmis par les générations passées, mais également de le mettre en concordance avec des expériences d'aujourd'hui, des initiatives plus vivantes comme le festival Offenbach à Bruniquel, Samba le pays à Moricou, des initiatives également sur Saint-Antonin ou sur la Guépie. Et c'est toute cette association du patrimoine traditionnel et patrimoine vivant que nous essayons de mettre en route dans ce pays d'art et d'histoire. L'autre mission qui se poursuit depuis des années, c'est l'inventaire du patrimoine. Qu'avons-nous exactement? Connaissons-nous ce que nous avons? Donc nous avons recruté, il y a plusieurs années maintenant, quelques chercheurs qui inventorient systématiquement toutes les richesses de toutes les communes du pays Midi-Quercy. Ça fait maintenant 10 ans que ce travail est engagé et qui porte ses fruits, qui améliore la connaissance du pays Midi-Quercy, qui permet également, et c'est en cohérence avec le pays d'art et d'histoire, de diffuser cette connaissance, parce qu'on est quelquefois surpris de la méconnaissance des citoyens qui habitent le pays Midi-Quercy à l'égard de leur patrimoine dès lors qu'il n'est pas juste sous leur nez. Voilà pour les aspects, disons, patrimoniaux. Ensuite, le pays Midi-Quercy a eu une action ancienne et approfondie concernant les problèmes de l'environnement et notamment les problèmes de l'énergie. Nous avons un plan climat-énergie que nous poursuivons, qui a diverses facettes. Nous avons développé une récemment. Ce sont les familles à énergie positive, c'est-à-dire non pas en faisant cette fois-ci des investissements, non pas en dépensant beaucoup d'argent, mais comment, à travers les gestes quotidiens de gens qui ont une certaine convivialité entre eux, une famille, une équipe, l'équipe du Midi-Quercy, l'équipe de la communauté du Quercy Caussadé, comment, à travers des gestes quotidiens, on peut arriver à avoir une attitude responsable à l'égard de ses dépenses d'énergie, de façon de gérer ses déchets, et comment, par des gestes quotidiens, en faisant des observations les uns les autres, on peut améliorer notre performance énergétique. Ça, c'est une action que nous avons lancée cette année à Caussade, qui marche bien, qui est assez sympathique d'ailleurs. Et nous avons aussi dans ce moment-là les nuits de la thermographie, c'est-à-dire que nous allons dans un village ou dans une rue, dans un quartier, où nous demandons, cette année nous ferons ça, quels sont les volontaires pour essayer de cartographier leur maison de telle manière à connaître les perditions d'une maison en matière de chaleur et réfléchir avec les gens sur les solutions et le coût des solutions qui permettraient d'économiser ou d'éviter de gaspiller de l'énergie. Ces nuits de la thermographie se font depuis un certain nombre d'années et nous allons les continuer. Dans un autre secteur qui a un rapport avec le plan climat-énergie, ce sont les circuits courts. Les circuits courts, c'est une façon, on dit qu'il faut consommer français, c'est bien, mais il faut peut-être aussi, si on veut se préoccuper des problèmes énergétiques, consommer le plus possible près de chez soi. Tout n'est pas possible forcément de consommer près de chez soi, mais un certain nombre de produits peuvent l'être et il faut valoriser les produits, qui sont souvent d'ailleurs de qualité, qui sont quelquefois des produits biologiques d'ailleurs, et qui sont produits sur le territoire de Midi-Quercy. Et nous avons lancé une action pour les valoriser, mieux les faire connaître, les promotionner grâce à un ensemble de restaurateurs de qualité qui sont intéressés par se promotionner eux-mêmes, mais également par promotionner les pays du Midi-Quercy. Ainsi, les efforts des uns et des autres, qui ne se connaissaient pas forcément, se conjuguent pour arriver à être tous ensemble pour valoriser notre reste du département. Pour couronner tout ça et pour faire finir le bilan de cette année, eh bien c'est cet effort permanent que nous avons et qui est, donc vous verrez la cohérence avec ce que je vous disais des pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire que finalement notre système de promotion repose sur les offices de tourisme et syndicats d'initiative. Et certainement que cette structuration a besoin d'être mieux organisée, plus rationnelle et plus centrée sur les populations qui viennent en visite dans notre département pendant l'été, et notamment les populations étrangères. Nous avons comme objectif dans la promotion de la nouvelle destination Midi-Quercy-Gorges de l'Aveyron, de développer l'attractivité vers la clientèle, notamment espagnole, italienne, hollandaise et anglaise. Voilà pour ce bilan de la première année du bilan du pays Midi-Quercy.
Pays Midi-Quercy, tous les lundis de 12h à 12h30, le lundi soir à 17h et samedi à 18h.
Avec Jean Cambon, président du syndicat mixte du Pays Midi-Quercy, la directrice du centre d'art et de design La Cuisine, Valentine Boé. L'événement de ce mois de janvier, le château de Nègrepelisse ouvre ses portes le 25 janvier.
Oui, donc le 25 janvier, le château de Nègrepelisse ouvrira ses portes. Et les directrices du centre d'art et moi-même avons souhaité que cette journée soit dédiée aux enfants, sous forme d'une programmation qu'on pourra vous exposer tout à l'heure. Alors pourquoi aux enfants ? Parce qu'il nous semble, la cuisine développe déjà, et on le faisait précédemment à la médiathèque de Nègrepelisse, développe tout une stratégie de médiation de l'art et de l'art contemporain à l'égard des enfants. Ça nous paraît une chose extrêmement importante. L'école a quand même un peu largement abandonné cette formation et cette sensibilisation, Et il nous apparaît que c'est un élément majeur aujourd'hui dans notre société, que dans les zones rurales, il puisse y avoir une offre culturelle à l'égard des enfants qui les situe par rapport aux problématiques de l'art d'aujourd'hui. Il sera exposé une œuvre collective d'enfants à propos d'un travail de Cyril Yatt, qui est une tête d'agrippine qui avait été découverte à Négropolis à l'occasion de travaux. Et Cyril Yatt avait déjà exposé il y a plusieurs années à Négropolis. Et son travail consiste à partir de photographies d'objets, de reconstituer des objets. Et dans le cas de reconstituer, plus grand que nature d'ailleurs, le buste d'Agrippine. Bien entendu, le buste d'Agrippine est lui-même une œuvre d'art. Le travail de Cyril Yatt, c'est un artiste qui utilise l'art contemporain. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le travail, de ce travail de médiation, c'est comment, à partir de n'importe quel objet, là il s'agit de photographies froissées, un enfant peut comprendre qu'il y a une possibilité d'expression artistique à partir d'un bout de papier, d'un bout de bois, de n'importe quel objet qui peut prendre un sens dès lors qu'on a quelque chose à dire. Et je crois que ce processus créatif est montré aux enfants à travers de nombreuses expériences, puisque c'est entre la Maison des Arts de Négropolis et le Centre d'Art, c'est une expérience continue, l'association et l'entente parfaite que nous avons avec les écoles de Négropolis, permettent d'avoir un programme qui permet à tous les enfants de Négropolis d'avoir cette formation, d'avoir cette sensibilisation et de penser que lui-même est un créateur. Et lorsque on a pu évoquer précédemment cette question de savoir pourquoi dans les zones rurales et pourquoi pas dans les villes, je pense que la première action, ça consiste à développer la musique dans les zones rurales, les médiathèques, le livre dans les zones rurales, mais de laisser penser à chacun qu'il peut être un créateur. Alors c'est comme dans le domaine du rugby, du foot, tout le monde ne jouera pas dans le top 14, tout le monde ne sera pas un grand artiste, mais l'ensemble des choses qu'on a apprises en apprenant à jouer au rugby, au football, ou en apprenant à danser, ou en apprenant à s'exprimer par la peinture, par la sculpture, par la mise en forme d'objets, c'est quelque chose qui restera dans la vie et que pour moi j'assigne presque à l'apprentissage qu'on pouvait avoir dans des périodes passées, à l'apprentissage dans divers métiers, qui étaient la menuiserie, la charpente, qui elles-mêmes permettaient de découvrir des choses qu'on allait pouvoir transférer dans d'autres domaines. Et je dirais que pour moi, l'art et l'éducation artistique qui est menée par le Centre d'Art et par l'ensemble de la communauté de communes qui travaille dans ce domaine, c'est travailler sur cette notion de transfert. Comment, à partir du moment où on a acquis quelque chose dans ce domaine, de la création à travers l'art contemporain, va pouvoir être transféré dans d'autres domaines. Et je l'assimilerai assez à l'apprentissage des langues. Pourquoi on apprend l'occitan des enfants? Certainement pour qu'ils aient, connaissent la langue occitane, parce que occitane, c'est formidable. Mais il y a aussi le fait que, maniant des structures mentales d'une autre langue, on fait des transferts entre la langue occitane et la langue française, qui sont en eux-mêmes formateurs pour l'enfant, et qui vont leur permettre de faire des transferts sur l'anglais, sur l'espagnol, sur le chinois, sur ce qu'ils pourront apprendre après. Et voilà, je crois qu'il est très important de saisir tous ces rapports qu'il y a entre l'idée qu'on se fait des enfants, l'idée qu'on se fait de leurs possibilités créatives, et l'idée qu'on se fait que va lier monde rural, donc impossibilité de création. Nous, notre point de vue, c'est un homme est un homme partout, et ses possibilités de création sont les mêmes partout, et notre rôle est de leur donner les instruments pour le faire.
Oui, effectivement, on peut dire que la création participe à l'émancipation et à l'épanouissement des êtres. Et c'est aussi pour cette raison-là que depuis 2008, enfin, le Centre d'Art existe depuis 2004. Et depuis 2008, on développe donc le service des publics du Centre d'Art avec des médiatrices. Donc on a des visites pour les enfants et des ateliers de pratique artistique. Donc on a deux plasticiennes médiatrices qui mettent en place tous ces projets avec des enfants, mais également des jeunes, parce qu'on a dans ce projet donc, qui va être présenté dans le château qui s'appelle À l'assaut, les enfants exposent au château, les jeunes pardon, exposent au château. Donc effectivement, ce n'est pas uniquement des enfants, parce qu'on a aussi des lycéens, parce qu'on a fait des projets de résidence en lycée à Toulouse, entre autres, et également à Auzeville. Donc là, ce sont des plasticiens aussi qui sont intervenus. Donc l'idée, voilà, de faire vraiment un focus sur l'éducation artistique et culturelle dans le château pour cette première période de préfiguration, c'est vraiment aussi de montrer notre engagement en tant que centre d'art pour la sensibilisation des publics à la création contemporaine. Du coup, on va ouvrir une première période de préfiguration, donc qui va commencer le samedi 25 janvier jusqu'au mois de juin. Et après, on va débuter donc vraiment notre programmation artistique, donc c'est une programmation triennale qui débutera donc avec une inauguration officielle du centre d'art le 14 juin 2014, samedi 14 juin. Donc ça sera tout un week-end. Donc bien sûr, on y reviendra avec une exposition d'une artiste plasticienne qui s'appelle Suzanne Schki, et puis également bien sûr avec des rencontres et des conférences avec les architectes RCR qui ont dessiné la réhabilitation du château. Donc pour revenir sur cette première ouverture, cette première journée du château, samedi 25 janvier, donc elle est divisée en deux temps. On a une première partie, donc le matin, justement pour revenir sur ces problématiques-là, donc qui est une table ronde qu'on a nommée « Quelle éducation artistique et culturelle voulons-nous pour nos enfants ?» Comment intégrer l'éducation artistique et culturelle dans l'enseignement ? Donc bien sûr, la spécialité art visuel, art plastique, hein, vu que c'est vraiment notre domaine. Et donc, dans cette matinée, nous allons présenter des dispositifs, donc avec l'inspection d'académie, l'inspecteur de l'éducation nationale, la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles, l'ADA 82. Enfin voilà, il va y avoir des présentations comme ça de dispositifs. Et puis après, des récits d'expérience. Donc là, ce sont des récits en duo, donc à chaque fois, un enseignant et une médiatrice ou un artiste. Et donc là, ensemble, ils vont présenter des expériences qu'ils ont eues donc avec les classes sur le pays Midi-Quercy. Voilà. Et puis, donc, à partir de 13h, donc là, c'est vraiment l'ouverture du bâtiment. Puis, d'abord, on va dire, un assaut par des enfants, donc qui est une petite surprise, donc je ne vais pas trop dévoiler, mais par la Maison des Arts. Donc là, il va y avoir le lancement à 13h. Et puis, donc, toute l'après-midi, donc je ne vous fais pas tout le détail, mais globalement, vous allez avoir des activités donc pour les enfants en tout genre, donc des ateliers de cuisine, parce que dans le bâtiment, on va avoir une vraie cuisine professionnelle, donc on va lancer les ateliers de cuisine, un atelier de pratique artistique avec Cyril Hatt, donc qui est cet artiste qui a fait ce projet avec les enfants de la Maison des Arts, également des projections de films avec la médiathèque de Nègrepelisse, et puis également avec l'association Pollen de Nègrepelisse, qui fait fonctionner le bois de Sherwood, donc le rucher pédagogique à Nègrepelisse. Et puis également, pour clôturer cette journée, un spectacle proposé par l'ADA 82, donc Parcours en danse. Donc là, on va finir avec une déambulation dansée dans le château. Donc là, ça sera de 17h à 18h. Donc voilà, et puis bien sûr, il va y avoir un goûter, enfin voilà, il y a plein d'activités. On a également l'association Réel, avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant, qui a proposé des lectures, bien sûr, autour de cette thématique des châteaux. Voilà, donc toute cette programmation donc, qui est assez dense, parce que c'est quand même une grosse après-midi, donc vraiment dédiée aux enfants. Donc il y a plein de propositions pour les enfants. Donc bien sûr, c'est sur réservation, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des petits ateliers, hein, de 10 enfants, pas plus. Donc il faut réserver. Donc vous avez toutes nos informations sur notre site internet, donc www.la-cuisine.fr. Vous pouvez bien sûr nous appeler également au centre d'art et nous demander les informations que vous souhaitez au 05 63 67 39 74. Voilà pour les informations pour cette journée.
Valentine Bouet, je vous remercie.
Cette exposition s'appelle « À l'assaut ». Donc, vous pourrez légitimement s'interroger à l'égard d'enfants pourquoi ce terme « guerrier ». Et en réfléchissant avec les animatrices du Centre à la cuisine, on a pensé que ce serait un beau thème pour inscrire ce centre d'art et ses activités dans l'histoire de Nègrepelisse, puisque ce château était une ancienne place forte qui a permis au roi Louis XIII, et quelquefois protestant, une autre fois les catholiques, à se déchirer, à se diviser. Et aujourd'hui, les enfants montent à l'assaut de ce château qui est le symbole de lutte fratricide sur un fond religieux, pour dire qu'on peut faire de cette place forte autre chose, et que cette autre chose, c'est lié à un autre type de relation entre les hommes. À l'heure où, partout dans le monde, les conflits religieux, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, sont une base principale de division des hommes, et que ce qui nous semble peut-être vieux de 7 siècles n'est pas si ancien que ça, montrer que un projet politique, un projet culturel, peut-être d'inscrire la relation entre les hommes sur d'autres bases que celle de la guerre et de la division religieuse, nous paraît une idée également qui est assez actuelle.
Jean Cabot, je vous remercie.
Merci, avec plaisir.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à 12h05, rediffusé à 17h et le samedi à 18h. Merci d'avoir écouté ce MAG que vous pouvez retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Les émissions Le MAG du pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.